Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
La situation s'améliore grâce aux efforts de tous. Mais ces chiffres, pour encourageants qu'ils soient, restent encore fragiles.
Jean Castex, ce matin, dans le détail, avec une série de précisions pour les commerces, les lieux de culte qui devront bien se contenter de 30 fidèles maximum jusqu'au 15 décembre, les cinémas et théâtres qui pourront prolonger des séances jusqu'à 21h, des stations de ski accessibles à Noël, mais pas pour faire du ski, remontée mécanique arrêtée, et pour Noël, appel du Premier ministre à limiter le nombre de convives autour de la table, de nouvelles aides économiques, 900 euros par mois pour les précaires saisonniers et extras de la restauration. Et 2021 sera l'année de la gastronomie en France. Dossier complet dans un instant. Et dans un quart d'heure, nous irons du côté des salles de cinéma. Le délégué général de la Fédération des cinémas français, Marc-Olivier Sebag, invité d'Europe Midi. Dans le reste de l'actualité, suspense pour la reprise du procès Sarkozy. Le tribunal se prononcera à 13h30. La réforme de l'assurance chômage, retoquée en partie par le Conseil d'État. Et la déploration mondiale pour la mort de Maradona. Nous irons à Naples, où un stade portera son nom.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Réouverture, mode d'emploi, Jean Castex vient de livrer le programme des semaines à venir avec un niveau de détail plus élevé que lors de l'allocution présidentielle. Adrien Becht, vous venez de suivre la conférence de presse à Matignon pour Europe 1.
Oui, avec des précisions ce matin pour ce qui ne sera pas un déconfinement, ce serait prématuré, a d'emblée prévenu Jean Castex. Alors dans le détail, dès samedi, outre l'ouverture des commerces avec une jauge de 8 mètres carrés par client, un système de comptage pour les grandes surfaces, eh bien il y aura aussi reprise des cours de conduite dans les auto-écoles, des visites immobilières et une confirmation, les lieux de culte ne pourront accueillir plus de 30 personnes avec impossible assouplissement au 15 décembre. Là, nous passerons au couvre-feu, attestation plus obligatoire en journée, théâtre, cinéma pourront rouvrir et vous pourrez rentrer chez vous après 21h avec le billet comme justificatif. C'est ensuite le 20 décembre que nous pourrons nous déplacer sur tout le territoire avant des fêtes de fin d'année un peu particulières. Écoutez Jean Castex.
Nous avons décidé avec le président de la République que le couvre-feu serait levé à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre prochains afin de vous permettre de retrouver vos proches. Cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou le Nouvel An comme les années précédentes. Il est donc impératif que vous limitiez le nombre de personnes à table et évitiez les rassemblements trop nombreux.
Voilà, et des vacances de Noël qui, plus globalement, seront particulières. Remontées mécaniques resteront fermées dans les stations de ski, tout comme les clubs et colonies de vacances. Tout cela avec l'espoir d'une levée du couvre-feu au 20 janvier. Quant aux bars et restaurants, Jean Castex tente de calmer la colère et d'apporter une attention particulière. Il annonce une année de la gastronomie en 2021, sauf que cette année sera forcément amputée, puisque bars et restaurants aussi devront rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier.
Adrien Becht à Batignon pour Europe 1. Et nouvelle salve d'aide financière, d'abord Carole Ferry, pour des secteurs qui ne sont pas fermés mais qui sont très impactés par la crise, hôtellerie, événementiel.
Eh bien oui, c'était une annonce très attendue, hein. Ce sont tous ces secteurs qui ne sont pas fermés administrativement mais qui sont directement impactés par les fermetures. Ce sont en effet, vous l'avez dit, les hôtels, l'événementiel, le voyage. Et donc, si ces entreprises ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, eh bien elles pourront récupérer 15 à 20% de ce qu'elles avaient réalisé l'an dernier sur la même période. Ce sont des aides proches finalement de ce qui est proposé pour les bars et restaurants notamment. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé, Adrien vient de nous le dire, concernant que par solidarité, 2021 serait l'année de la gastronomie. Alors dans la plupart de ces secteur, vous avez bien sûr le problème des saisonniers, des extras qui ne peuvent plus travailler. Eh bien, tous ces travailleurs précaires auront droit à une aide exceptionnelle de 900 euros par mois jusqu'en février s'ils ont travaillé au moins 60% du temps en 2019.
Merci Carole Ferry. Sur le plan sanitaire, Olivier Véran se félicite de l'effet du confinement. La France est l'un des pays d'Europe où le reflux de l'épidémie est le plus fort, Victor Delande.
Oui, le taux d'incidence en France a connu un très fort recul sur les trois dernières semaines, une baisse qui place l'Hexagone parmi les meilleurs élèves européens. On était même devant l'Allemagne en nombre de contaminations hier, 16 000 pour la France, 18 000 pour l'Allemagne. Le pic épidémique a été atteint lors de la deuxième semaine de novembre en France, ça signifie que depuis 3 semaines maintenant. Le nombre d'infections est en diminution constante, une chute rapide puisque chaque semaine, on compte 30% de cas de positifs en moins par rapport à la semaine précédente. Sur les 7 derniers jours en moyenne, un peu moins de 15 000 cas ont été recensés chaque jour contre 45 000 au moment du début du confinement. La diminution est également visible dans les hôpitaux, les hospitalisations et le nombre d'admissions en réanimation baissent tous les jours. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc loué la stratégie de la France ces dernières semaines.
On peut dire que ça va mieux et à tous les niveaux. Les mesures que nous avons prises étaient et elles restent nécessaires, efficaces, proportionnées. Elles ont été prises au bon moment de l'épidémie, décidées au bon moment et surtout, les Français respectent ces mesures. La pression sanitaire reste forte. L'épidémie n'est pas derrière nous, la seconde vague n'est pas terminée. Nous devons donc poursuivre sur notre lancée, ne pas relâcher maintenant notre vigilance, surtout pas, ne pas relâcher nos efforts, et nous réussirons.
Si le recul de l'épidémie se poursuit, nous pourrions atteindre les 5000 cas par jour à la fin de la deuxième semaine de décembre, a assuré Olivier Véran. 5000 cas par jour, c'était le seuil fixé par le chef de l'État pour remonter toutes les chaînes de contamination et donc reprendre le contrôle sur l'épidémie. Prudence, toutefois, cette prévision est plutôt optimiste. Les modélisateurs de l'épidémie estiment, eux, que nous atteindrons cette barre plutôt vers la fin du mois de décembre.
Victor Delande, y aura-t-il de la glisse à Noël ? C'est non, pas de ski. Les remontées mécaniques seront à l'arrêt, mais les stations resteront accessibles pour prendre le bon air, a dit Jean Castex. Pas question d'autoriser en tout cas les grands rassemblements de sport d'hiver. Même chose en Allemagne qui met la pression sur Bruxelles pour faire interdire les séjours de ski dans toute l'Europe, malgré la colère des stations et l'opposition de l'Autriche. L'Allemagne qui ne parvient plus depuis 2 semaines à faire reculer l'épidémie. 18 000 contaminations hier et 410 morts, davantage qu'en France désormais, Victor Delande vous le disait. Ce qui conduit, Hélène Kohl, vous êtes à Berlin, ce qui conduit Angela Merkel à un tour de vis supplémentaire.
Oui, la chancelière a, comme vous, l'œil fixé sur les courbes partout en Europe. Et ce matin, devant les députés du Bundestag, elle a d'ailleurs cité plusieurs fois l'exemple de la France ou de l'Italie, où les contaminations diminuent, alors qu'en Allemagne, rien du tout. Voilà 13 jours maintenant que l'on tourne autour de 20 000 nouveaux cas. On est sur un plateau. La courbe ne bouge pas, ne plonge pas, a-t-elle dit. Donc, je vous demande un effort supplémentaire, a dit Angela Merkel. Hier soir, après 7h30 de discussion avec les présidents des Länder, il a été décidé de diviser par 2 la fameuse bulle sociale. Désormais, les rencontres, ce ne sera pas plus de 5 adultes à la fois, venus de 2 foyers différents, et la consigne est très claire. Si ce contact n'est pas indispensable, il ne doit pas avoir lieu du tout. L'idée est de se restreindre le plus possible pour sauver les fêtes où l'on pourra se retrouver à 10. Les magasins restent ouverts ici, mais à condition de filtrer les entrées. Pour les grandes structures dites type supermarché ou centres commerciaux, la jauge est seulement de 1 client pour 20 mètres carrés, 1 pour 10 mètres carrés dans les commerces en ville. C'est donc effectivement un tour de vis supplémentaire. Mais il faut rappeler quand même, Patrice, que l'Allemagne est l'un des pays d'Europe où les mesures de restriction sont encore les plus légères. Par exemple, ici, il a toujours été autorisé de sortir sans aucune attestation, ni limite de temps ou de distance.
C'est vrai. Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Merci. Aux États-Unis, ça continue de s'aggraver. Plus de 2400 morts en 24 heures. Chiffre record depuis début mai. Los Angeles, la deuxième ville du pays, ferme pour 3 semaines ses bars et restaurants. Et en ce jour de Thanksgiving, le ministre de la Santé californien demande aux Américains de renoncer aux grandes réunions de famille en affirmant qu'il avait interdit à sa propre mère de le rejoindre aujourd'hui.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le reste de l'actualité dans un instant, la réforme de l'assurance chômage, corrigée par le Conseil d'État et Maradona sanctifié à Naples.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Un deuxième départ pour le procès Sarkozy. Le tribunal de Paris le dira à 13h30 après l'expertise médicale ordonnée sur l'un des prévenus, Gilbert Azibert. On saura alors si le procès pour corruption de l'ancien président peut se poursuivre ou si l'audience sera renvoyée. Pour l'assassinat de Samuel Paty, 4 autres collégiens ont été mis en examen, dont 3 âgés de 13 et 14 ans pour complicité. Des policiers seront suspendus, annonce Gérald Darmanin après la diffusion d'images d'un homme roué de coups samedi dernier à Paris. C'est un producteur de musique qui a fait ensuite 48 heures de garde à vue. Les policiers concernés font l'objet d'une enquête pour violence et faux en écriture publique. La réforme de l'assurance chômage, amputée d'une de ses principales mesures, décision du Conseil d'État saluée hier soir par tous les syndicats, ce qui a été désavoué et annulé, c'est pour l'essentiel le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence qui devait, à partir du mois d'avril, réduire l'indemnisation de plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Olivier Samin.
Oui, certains diront que c'est le cœur de la réforme. En tout cas, c'est la mesure qui a provoqué la plus forte levée de boucliers des syndicats quand elle a été annoncée par Édouard Philippe en 2019. Le gouvernement, à l'époque, considérait que le calcul de l'allocation journalière versée aux chômeurs favorisait trop ceux qui font des allers-retours répétés entre période de travail et période sans emploi, au détriment des chômeurs qui ont des contrats plus longs, ce qui, disait le gouvernement, n'incite pas à la reprise durable d'un emploi. D'où la nouvelle règle qui avait pour effet de réduire parfois dans de fortes proportions le montant de l'allocation journalière des chômeurs en question. Nouvelle règle qui, après plusieurs reports, devait entrer en vigueur le 1er avril prochain. Mais voilà, le Conseil d'État considère que cette nouvelle règle crée des distorsions trop importantes entre les chômeurs et qu'il y a du coup rupture d'égalité. Les autres mesures de la réforme concernant les chômeurs, notamment le changement de la durée de cotisation requise pour être indemnisé et l'instauration de la dégressivité pour les plus grosses allocations, ces autres mesures, elles, ne sont pas remises en cause.
Olivier Samin, une révolution à Flins, l'usine historique de Renault qui fut celle de la Dauphine. Flins, dans les Yvelines, va arrêter l'assemblage de voitures neuves pour se consacrer aux véhicules d'occasion. La direction de Renault a l'ambition d'en faire la première usine d'Europe d'économie circulaire. Aurélien Fleureau.
Oui, même si la Zoé continuera d'être produite ici dans les Yvelines jusqu'en 2024, l'usine commencera sa révolution à partir de l'été 2021 avec le lancement d'une activité de remise à neuf de véhicules d'occasion, puis également la poursuite de l'activité recyclage qui existe jusqu'ici sur le site de Choisy-le-Roi, seule usine que Renault va fermer en France. Un choix devenu incontournable pour Jean-Dominique Senard, le président de l'Alliance Renault-Nissan.
Le statu quo n'est plus possible aujourd'hui pour Flins. Il faut donc réinventer Flins. On est là ici pour sauver Flins. Et je crois qu'on l'a exprimé de la façon la plus claire. Et je crois que ça a été entendu.
La direction s'est exprimée après avoir échangé avec les représentants syndicaux des deux sites. Ceux de Choisy restent sur leur faim. C'est pourtant un projet porteur d'avenir, répond Luca De Meo, le nouveau directeur général de Renault.
Moi, je pense que ça, c'est un projet d'une grande modernité. Sur la partie de recyclage, Renault est déjà un acteur très important sur le marché français. On a généré un business que je viens de découvrir chez Renault qui est plutôt intéressant. Et Flins, ça va être le centre.
Et avec ses nouvelles activités comme le recyclage des batteries électriques, Renault espère 3000 emplois à Flins à l'horizon 2030.
Aurélien Fleureau, Sancto Subito, Diego Maradona, déjà célébré de son vivant comme une idole, accède au rang de divinité ce matin. La veillée funèbre a débuté au palais présidentiel Buenos Aires où sa dépouille est exposée. Des dizaines de milliers d'Argentins éplorés ont passé la nuit à proximité du palais en attendant de pouvoir se recueillir. Et à Naples, la grande ville la plus pauvre d'Italie, à qui Maradona avait rendu sa fierté, eh bien les hommages se poursuivent, Blandine Hugonnet.
Oui, les Napolitains se sont passé le mot hein. Depuis ce matin. Fanion, drapeau, banderoles pendent des fenêtres, des balcons, des fils à linge. En une nuit, les quartiers populaires de Naples se sont teintés de bleu clair, couleur de l'Argentine et du Napoli, le club qui a fait briller Maradona. Et inversement, Naples c'est Maradona, Maradona c'est Naples. Voilà ce qu'on entend ici depuis hier soir. Des habitants toujours en pleurs, toujours très émus, comme Michele. Il a rejoint une place dans le centre de la ville avec d'autres tifosi. Il fallait se réunir et tant pis pour le respect du confinement imposé ici.
On est en zone rouge ici, donc on n'a pas le droit de se réunir comme ça, sauf si c'est un déplacement nécessaire. Et pour nous, rendre hommage, c'est une nécessité. On a tous besoin de se retrouver, de revivre cette période où Maradona avait réussi à unir tout le peuple.
Et en effet, aucun policier n'est venu troubler ces moments d'émotion et de deuil pour le Napolitain d'adoption. Naples qui rendra hommage aussi ce soir sur la pelouse du mythique stade de Napoli, avec une minute de silence, des brassards noirs et d'immenses portraits du roi du foot. Le maire et le président du club de Naples ont même proposé de rebaptiser ce stade de foot au nom de Diego Maradona.
Blandine Hugonnet en ligne de Naples pour Europe 1. Cyril de la Morinerie, des réactions aux quatre coins de la planète sont de la même eau. Bénite, avec des références religieuses et fort logiquement, la parole du pape.
C'est ça, le pape François, le souverain pontife, l'avait reçu à plusieurs reprises au Vatican depuis son élection en 2013. Le pape qui a joué un rôle important dans la reconnaissance de son fils illégitime Maradona Junior. Les autres géants du football ont réagi, le Brésilien Pelé bien sûr, qui espère désormais rejouer avec lui au ciel. Zidane, Platini, mais aussi Lionel Messi, son successeur en équipe d'Argentine. Diego est éternel, écrit le ballon d'or argentin du Barça. Sur Europe 1, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, a été le témoin notamment de la fin de sa carrière à la Coupe du Monde 94, Argentine-Nigeria, où le génie est contrôlé positif à un produit dopant.
On a tiré au sort le numéro 10 d'Argentine pour le contrôle de dopage. Et à ce moment-là, le président de la fédération d'Argentine, qui était à côté de moi, a fait le signe de croix et puis il a dit « que Dios nos protege ». Ça veut dire que Dieu nous protège.
Plusieurs chefs d'État ont fait part de leur émotion, particulièrement en Amérique du Sud. Maradona, fidèle au socialisme, proche de Fidel Castro, d'Hugo Chavez, s'était aussi affiché aux côtés de Nicolas Maduro. Le président du Venezuela a fait une déclaration hier soir à la télévision.
Ce mercredi 25 novembre, un géant nous a quittés. Le gamin en or d'Amérique, le gamin du peuple, Diego Armando Maradona.
Enfin, le président Emmanuel Macron, fan de football, a fait référence aux vignettes Panini et au légendaire Argentin Angleterre 86. Je cite « La main de Dieu avait déposé un génie du football sur Terre. Elle vient de nous le reprendre d'un dribble imprévu qui a trompé toutes nos défenses. »
Merci Cyril de la Morinerie. Le temps doux, Anissa Adadi.
Oui, même si ce matin, Patrick, nous avions encore des gelées matinales dans l'Est, et bien cet après-midi, le thermomètre va grimper et la sensation de douceur sera bien plus nette, surtout à l'Est, avec 7 degrés à Strasbourg, 9 à Metz, 10 pour Paris, 12 à Lyon, 18 degrés à Marseille et 19 pour Ajaccio, la maximale. Alors dans le ciel, les brouillards matinaux sont en train de se dissiper presque partout. Le soleil fait de belles apparitions cet après-midi. Sur la Bretagne et la Normandie, nous avons un ciel un petit peu plus couvert. Et puis au bord de la Méditerranée, toujours un temps agité du Languedoc au sud de l'Auvergne en passant par les Cévennes. Il pleut et le vent d'OTAN se renforce.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Encore un peu plus de 2 semaines avant de se refaire une toile. Les exploitants étaient impatients. Nous aurons en ligne dans un instant le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français, Marc-Olivier Sebag.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Marc-Olivier Sebag.
Bonjour.
Délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français, je rappelle les annonces qui ont été confirmées ce matin par Jean Castex. Réouverture le 15 décembre de toutes les salles de spectacle et de cinéma, avec le même protocole sanitaire que pendant le couvre-feu. Pour les séances et spectacles qui s'achèveraient à 21h, une tolérance sera accordée pour pouvoir rentrer chez soi en bravant le couvre-feu. Réaction, vous êtes satisfait ?
Alors on est très heureux d'ouvrir, on est très heureux de proposer aux Français de revenir au cinéma, de revenir au théâtre, hein, parce que pour les théâtres c'est le même régime qui s'applique à nous. Et par contre, le système de retour chez soi après 21h, on trouve qu'il est un peu en deçà de ce que nous avait laissé entrevoir Emmanuel Macron. Et comme on rouvre dans 3 semaines, on va tout faire pour élargir les choses et pour que proposer, c'est ça notre objectif, une vraie séance de 20h aux Français et pour qu'ils puissent dans cette morosité ambiante, revenir au cinéma.
Vous voulez grappiller une demi-heure, quoi.
Il ne s'agit pas de grappiller. Vous savez, la séance de 20h, c'est la vraie séance de cinéma où on va en famille, on va avec ses amis. Et c'est ça qu'on veut recréer. On veut recréer dans ce moment difficile. Ça ne sera pas des conditions normales. On aura un protocole sanitaire, on aura un couvre-feu, bien sûr. Mais recréer dans ces moments d'hiver, en plus, où la nuit tombe tôt, que les enseignes des cinémas puissent illuminer les villes, illuminer les villages, et en même temps, que les gens reprennent progressivement le goût à la culture, le goût au divertissement à l'extérieur de chez soi, et proposer cette séance du soir, en plus au moment des fêtes, vous voyez bien qu'elle peut apporter beaucoup à nos concitoyens.
Pour le goût d'aller au cinéma, qu'est-ce que vous le offrirez aux Français, aux spectateurs français à l'affiche à partir du 15 décembre, des films d'abord dont l'exploitation a été brutalement interrompue?
Oui, effectivement, on est très reconnaissant aux distributeurs de proposer des films, et donc en échange, les films qui étaient à l'affiche le 28 octobre, eh bien, ils vont rester à l'affiche des cinémas, que ce soit ADN, que peu de gens ont vu, puisqu'il n'a été exploité que pendant 2 jours, que ce soit Adieu les cons, mais il y a aussi des films pour enfants, Poli, pour les jeunes, 30 jours max. Donc voilà quelques films qui étaient à l'affiche, il y en a beaucoup d'autres le 28 octobre, et puis il y a des films qui vont sortir, des nouveaux films qui vont venir le 16, le 23 décembre. Et donc c'est l'équilibre entre continuer à proposer les films qui étaient là et que beaucoup de spectateurs veulent encore voir, n'ont pas encore vu, et puis les nouveaux films qui vont arriver. Et donc on parle de Wonder Woman 84, du discours de Laurent Tirard, pour ne prendre que 2 d'entre eux parmi les nouveaux films.
Juste avant le confinement, Adieu les cons, notamment le film d'Albert Dupontel avait très bien démarré. Vous êtes confiant sur l'envie et le goût des Français l'envie d'aller au cinéma après cette période où ils ont sans doute beaucoup consommé des séries ou des films à la télévision.
Oui, parce que lorsqu'on a fermé, effectivement, comme vous le disiez, Adieu les cons, 30 jours max, Poli, ont rassemblé de très nombreux spectateurs, et notamment des spectateurs qui viennent rarement au cinéma, qui là sont revenus parce que c'était les vacances de la Toussaint, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de films de genres très différents, donc il y en avait pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on est confiant dans les spectateurs. Ils sont venus, ils ont vu que c'était facile d'aller au cinéma, hein, qu'on pouvait porter le masque, il y avait la distanciation physique dans la salle, hein, un fauteuil de part et d'autre. Et que ça se passait bien, et qu'on était heureux de revenir au cinéma. Donc c'est pour ça qu'on est très confiant. En plus, c'est une période qui s'y prête, c'est une période très importante pour nous, c'est une période très importante dans la vie de tout un chacun. Et donc on est confiant, et l'offre de cinéma, elle va être beaucoup plus large qu'elle n'a été jusqu'à présent, et donc elle permettra à chacun de trouver son bonheur sur les écrans des salles de cinéma.
Marc-Olivier Sebac, quels sont les dégâts économiques provoqués dans votre secteur par les fermetures administratives ? Est-ce qu'il y a des cinémas, des exploitants qui ont fait faillite et qui ne rouvriront pas ?
Alors en termes macroéconomiques, sur l'ensemble du secteur, la chute est vertigineuse, hein, puisque on fera en 2020 à peu près 65% de moins de fréquentation de spectateurs que d'habitude. Ça veut dire 140 millions de billets vendus en moins par rapport à 2019. Donc c'est énorme, hein, c'est près d'un milliard d'euros, hein, de recettes, de chiffre d'affaires qui n'aura pas été fait dans notre activité. D'habitude, il y a 200 millions de spectateurs, hein, et bien là, il y en aura eu une soixantaine, 70, 80 peut-être, selon ce qui se passe à la fin du mois de décembre. Par contre, on a été extrêmement soutenu par le Centre National du Cinéma, par le ministère de la Culture, et ça permet au cinéma de tenir, ça permet de tenir jusqu'à un retour à la normale. Et c'est vraiment ces aides sectorielles, et les aides nationales, bien sûr, mais surtout les aides sectorielles qui vont permettre de poursuivre l'activité dans les semaines qui viennent, jusqu'au printemps, jusqu'au moment où le vaccin sera là et les protocoles sanitaires s'élargiront, et jusqu'au moment où les films américains vont revenir, puisque jusqu'à présent, comme la crise est encore plus profonde aux États-Unis qu'en France, il y a très peu de films américains qui sont proposés. Il y a Wonder Woman là qui va sortir. Il y a eu Les Trolls, un film pour enfants au moment des vacances et tout ça. Mais on a surtout, et grâce au film français qui est très riche et très très divers, on peut rassembler les spectateurs.
Donc les salles seront toujours là. C'est pas le cas partout dans le monde, hein. Il faut le oui, dire. Des salles aux États-Unis, en Grande-Bretagne, fermes et définitivement. Hein.
Oui, vous savez que le cinéma est né en France avec les Frères Lumière, et donc il y a cette tradition en France de façon transpartisane, hein, c'est pas une question de groupe politique, d'aider le cinéma, de soutenir le cinéma, la production de cinéma. Il y a beaucoup de films français, le cinéma en France, le film français fait 40% de part de marché, c'est pas du tout le cas dans les autres pays d'Europe, et pour leurs cinémas nationaux, et puis de soutenir les salles, et ça on en est très reconnaissant au gouvernement, parce que c'est ça qui va permettre qu'il n'y ait pas de faillite. Aux États-Unis, vous avez des groupes très importants qui sont au bord du dépôt de bilan, parce que ce qui coûte dans ces périodes-là, quand on n'a pas de recettes, quand les recettes sont à zéro, quand vous êtes fermé, eh bien, ce sont les loyers, par exemple. Et c'est des enjeux majeurs pour les salles de cinéma, comme les salles de spectacle en général.
Merci beaucoup, Marc-Olivier Sebac. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, et je vous souhaite une bonne préparation de réouverture donc pour le 15 décembre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h de Christophe Lamarre à suivre dans un instant, puis la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonne journée.